Alors, je vous invite à tourner dans vos Bibles, dans le livre de l'Apocalypse, dernier livre de notre Bible, et au verset, au chapitre 2. Et nous allons lire les sept premiers versets. Apocalypse, chapitre 2, au verset 1er, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi. J'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, que tu aies les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Et ce matin, nous continuons notre étude du livre de l'Apocalypse et en particulier, nous entrons maintenant dans la deuxième grande division de ce livre. Ce que les commentateurs intitulent « Ce qui est ». On avait commencé avec ce que tu as vu, le Christ glorifié. Nous entrons maintenant dans les choses, ce qui est les sept églises qui existaient à l'époque de l'apôtre Jean. Et plus tard, nous allons aussi voir les choses à venir, les choses qui doivent arriver ensuite. Alors, ce qui est parle des conditions qu'on a trouvées dans cette église qui existait lors de la rédaction du livre. Des conditions qui ont existé tout au long de l'histoire de l'Église. Vous allez voir qu'en étudiant ces églises, il y a des choses qui les caractérisent et des choses qu'on retrouve aussi tout au long de l'histoire de l'Église. Et des conditions qui existent encore aujourd'hui dans les églises, on va retrouver, on va être capable d'identifier aussi des conditions qui existent encore aujourd'hui. Et même plus précisément, et ça nous touche de plus près, des conditions aussi qui pourraient exister même dans notre propre église ici, au Cap-de-Madeleine. Alors, ce matin, pour notre étude, on va se porter sur la première de ces églises, qui est celle d'Éphèse. Et vous savez, avec l'intelligence que Dieu a donnée, l'homme a inventé toutes sortes de machines. Et je pense ce matin à la voiture, une machine qui est très pratique. On pourrait même, pour nous, en Amérique du Nord, ne pas s'en passer. Une voiture même qui devient de plus intelligente. Il y a même quelques-unes de ces voitures qui peuvent nous parler, qui peuvent nous dire justement l'état de la pression des pneus, l'essence qui est dans le réservoir et ainsi de suite. Mais j'aimerais ce matin qu'on focalise sur le tableau de bord. Avec tous ces cadrans, il y a des aiguilles, il y a des voyants, des lumières qui s'allument. Et surtout, il y a des voyants qui nous indiquent le niveau d'essence et de lave-glace dans le réservoir respectif. Et vous savez, c'est très pratique d'avoir ces voyants qui nous renseignent à propos des niveaux de ce liquide pour éviter qu'on ait des ennuis. Par exemple, de prendre l'autoroute et on tombe en panne sèche, ce ne serait pas drôle. Ni aussi de plus voir clair parce qu'il n'y a plus de lave-glace dans le réservoir. Et vous savez que dans le domaine spirituel aussi, on peut rencontrer des conditions tout à fait similaires. Notre texte ce matin nous révèle une église en panne sèche en ce qui concerne son amour pour le Seigneur. Et si on pouvait inventer un appareil justement pour mesurer le niveau d'amour d'une église d'aujourd'hui pour son Seigneur, quel serait le résultat? Si on pourrait aussi l'avoir ici dans notre église de Quatre-Madeleine, une machine, un voyant là, qui nous dit, écoute, ça va mesurer le niveau de votre amour pour le Seigneur Jésus-Christ, bien, quel serait le résultat? Et si de façon individuelle, ce matin, il y a plusieurs qui sont allés prendre des photos, se faire photographier, mais si on pourrait aussi prendre cet appareil-là et demander à chacun de vous de vous présenter pour qu'on puisse mesurer votre niveau d'amour pour le Seigneur Jésus-Christ, je demanderai quel serait le résultat. Ne vous inquiétez pas, là, il n'y a pas une telle machine qui existe. Mais vous savez une chose, le Seigneur il connaît les cœurs. Le Seigneur connaissait les cœurs dans l'église d'Éphèse. Il connaît aussi les cœurs dans cette église ici au Cap-de-Madeleine. Il connaît aussi votre cœur. Il connaît aussi le mien. Il connaît si cette église est en panne sèche en ce qui concerne l'amour pour lui ou bien si le réservoir est plein. Il connaît si vous, en tant que chrétien, êtes aussi en panne sèche ou si votre réservoir est plein. Mais j'aimerais vous poser une question. En revanche, est-ce que vous connaissez l'état de votre amour pour le Seigneur? Est-il important de connaître? Et comment pourriez-vous le connaître? Vous savez, notre texte pour ce matin nous révèle trois choses, trois faits importants que le Seigneur veut que vous sachiez à propos de votre amour pour lui. Et ma prière pour vous ce matin, ma prière pour moi ce matin, c'est que nous puissions tous entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Alors avant de regarder notre texte, juste quelques observations pour vous aider à mieux comprendre ce que nous allons voir. Au verset premier, on parle d'un ange. Cette lettre est adressée, écrite à l'ange d'Éphèse. Dans le texte original, le mot ange veut dire simplement un ange, avec des ailes, un être céleste. Mais dans ce contexte ici, ça ne peut pas être un ange parce que les anges ne sont jamais des responsables des églises. Il s'agit plutôt ici d'un ancien, un leader dans ces églises ici, des représentants. Alors vous avez cette église, vous avez cet leader et l'apôtre Jean va écrire de la part du Seigneur à chacun de ses responsables. Le Seigneur se présente comme celui qui tient les sept étoiles. Le chapitre 1 nous a dit que les sept étoiles étaient les messagers, les anciens, les représentants de cette église. Et ce texte nous démontre que le Seigneur, vu qu'il tient justement ces sept étoiles dans sa main, contrôle l'église et aussi contrôle les leaders. Et nous voyons aussi le Seigneur qui se présente comme celui qui marche au milieu des sept chandeliers. Alors le Seigneur est présent parmi son peuple et il est au courant de ce qui se passe dans chacun de ses églises. Tout d'abord aussi pour Éphèse. Éphèse était une ville portuaire d'Asie mineure à l'époque, c'est la Turquie aujourd'hui. Renommée pour son temple, il y avait un temple là dans cette ville dédié à Diane ou Artemis. C'était l'une des sept merveilles du monde. Et l'apôtre Paul avait fondé une église lors de sa troisième voyage missionnaire en Actes chapitre 19. Pas besoin d'y tourner. Mais cette lettre est écrite quelques 40 ans plus tard. Et là, vous avez maintenant une nouvelle génération, une deuxième génération de chrétiens. Et nous allons voir que justement du fait que ce sont une deuxième génération, une nouvelle génération, mais il y a des choses qui sont passées depuis la fondation de l'Église, quand l'Église a été fondée et quand la lettre aussi a été écrite. Alors, revenons à nos moutons et on va maintenant regarder ces trois faits importants que le Seigneur veut que vous sachiez et voulait aussi que cette Église sache à propos de son amour pour lui. Alors tout d'abord, sachez que vous pouvez abandonner votre amour pour le Seigneur. Si vous regardez le texte, s'il vous plaît, au verset 2, le Seigneur va dire, je connais ton œuvre, tes œuvres plutôt, ton travail et ta persévérance. Et vous allez dire, waouh! Quelle église active! Quelle église modèle! Quelle église fervente! Mais un instant, si on lit au verset 4, on voit que la situation est moins rose. Le Seigneur dit « mais ». Mais. Et ça fait toute la différence. Et cela aurait dû, ces paroles ont dû résonner dans les oreilles de ces destinataires qui les... Écoutez, mais, et le Seigneur continue, je connais tout cela, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et dans le texte original, le mot est très fort. Le mot veut dire répudier. C'est le même mot qui est utilisé dans 1 Corinthiens chapitre 7, où est-ce que l'apôtre Paul dit au mari de ne pas répudier sa femme, et vice-versa. Et le mot premier, ton premier amour, oui, ça peut dire premier en rang, premier, deuxième, mais cela aussi a le sens de principal, chef, le top. C'est comme si le Seigneur était en train de dire à cette église, « Vous m'avez répudié, moi, votre amour principal. » Celui que vous devrez aimer de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute ta force, vous l'avez répudié. Et ça, c'est le reproche que le Seigneur adresse à cette église. Vous savez, le Seigneur voit quand même des bonnes choses dans cette église. Si vous regardez au verset 2, il va dire, je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Et qu'est-ce qu'il voulait dire par cela? J'aimerais vous suggérer que cette église à Éphèse était une église qui exerçait de la discipline. Dans l'épître de Paul aux Corinthiens, on a le contraire. Il y a une église qui était en train de tolérer justement le péché. Et l'apôtre Paul, il fallait qu'il dise à cette église de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme un frère. Là, il donne toute la liste. Et débauché, et outrageux, et ravisseur. Et là, il finit par dire, ôtez le méchant du milieu de vous. Et c'est ce que Paul exhortait à cette église à Corinthe. Et les Éphésiens, le Seigneur leur dit, oui, je sais, vous ne pouvez pas supporter les méchants. Et c'est bien, vous exercez de la saine et bonne discipline, parce que vous savez, Paul même dans sa lettre aux Corinthiens, leur dit pourquoi. Il dit, un peu de levain, ça fait lever toute la pâte. Et si vous tolérez le péché parmi vous, vous serez contaminés. Alors c'était primordial que cette église passe à l'action et ôte, comme il les a exhortés, les méchants de parmi eux. Et je ne veux pas paraître dur ce matin, mais vous savez une chose, quand on exerce la discipline dans une église, on devrait faire cela avec des cœurs brisés, attristés par l'attitude du frère ou de la sœur qui refuse de se repentir. Et on est obligé justement de mettre cette personne sous la discipline dans le but que le Seigneur va toucher son cœur, le ramener dans son bon sens spirituel afin que cette personne soit restaurée dans la communauté des chrétiens. Mais il faut le faire. Le Seigneur voit l'église d'Éphèse et il dit, « Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, c'est bien. » Non seulement cette église pratiquait la discipline mais avec une bonne attitude, mais elle avait aussi des bonnes actions. Le Seigneur va dire, « Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. » Et quelle bonne action pour une église. Vous savez que selon 1 Timothée 3,15, l'église est la colonne et l'appui de la vérité. Alors, un des devoirs de l'Église, c'est d'éprouver et d'exposer justement le mensonge. Et c'est ce que aussi cette Église faisait. Et comment est-ce qu'elle était capable de faire cela? Mais j'aimerais aussi vous suggérer que l'Église d'Éphèse exerçait un discernement spirituel basé sur une saine doctrine. D'ailleurs, Paul avait laissé Timothée à Éphèse. Et dans sa lettre pastorale à Timothée, il va lui dire, « Je t'ai engagé à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. » Et l'apôtre Jean aussi avait œuvré à Éphèse. Alors, le discernement et la bonne doctrine, cette église-là l'avait en masse. Exercer la discipline, avait justement une bonne doctrine, un bon discernement. Troisièmement, cette église aussi avait une bonne réaction face à la souffrance. Le Seigneur va leur dire au verset 3, « Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es point lassé. » Alors, ces chrétiens-là avaient enduré leur souffrance. Ils avaient exposé, justement, les faux apôtres. Ils avaient expulsé les méchants. Mais ils avaient aussi enduré la souffrance. Et vous savez, c'est une grâce. C'est une grâce et aussi c'est une gloire pour quelqu'un de souffrir pour le nom du Seigneur. Remarquez ce que le texte va leur dire à propos de cela. Dans 1 Pierre 4, 14 et 16, pas besoin d'y tourner. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. L'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Et encore, si quelqu'un souffre, comme chrétien, qui n'en est point honte, mais plutôt qui glorifie Dieu à cause de ce nom. Le Seigneur est en train de dire, oui, vous avez une bonne réaction en ce qui concerne la souffrance. Et ça, c'est ce qui caractérisait l'église d'Éphèse. Bonne attitude, des bonnes actions, la bonne réaction. La discipline, la bonne doctrine, la détermination dans la souffrance. Les œuvres, le travail, la persévérance. Et vous savez, vu de l'extérieur, on aurait pu dire, waouh, c'est une église modèle. C'est une église où il fait bon vivre. Une église à imiter. Mais il n'y a rien qui n'échappe aux yeux du Seigneur. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et qui sonde les reins et les cœurs. Et malgré toute cette activité, le Seigneur sait qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette église. Il sait que la motivation derrière toute cette activité n'est pas bonne. Quelqu'un pourrait dire, mais est-ce possible? Comment se fait-il qu'une église pourrait être aussi active? faire de si bonnes choses, même endurer la souffrance, sans avoir la bonne motivation. J'aimerais vous suggérer de lire 1 Corinthiens 13, parce que dans les premiers versets de ce texte, pas besoin d'y tourner maintenant, vous allez voir qu'il est possible justement de poser des gestes sans avoir la bonne motivation. Alors le Seigneur doit leur adresser une reproche. C'est parce que l'Église faisait toutes ces bonnes choses sans amour réel pour lui. Et j'aimerais vous suggérer que l'orthodoxie, ce mot veut dire simplement faire les bonnes choses de la bonne manière, avait remplacé faire les bonnes choses avec la bonne motivation. J'aimerais vous suggérer que cette Église, il y avait la satisfaction de soi, la complaisance qui avait remplacé l'amour pour le Seigneur. J'aimerais même suggérer que peut-être la routine et le traditionnalisme avaient remplacé l'amour pour le Seigneur. On est une église qui exerce la discipline. On est une église qui a la bonne doctrine. On est une église qui est déterminée. Il est possible que cette église l'a focalisée sur ce qu'elle faisait et non sur la personne du Seigneur. Remplie de bonnes œuvres, mais en panne sèche en ce qui concerne l'amour pour le Seigneur. Et ce matin, vous devriez, et moi aussi, nous devrions tous nous poser cette question: comment est ma vie chrétienne ce matin? Est-ce que ma présence ici, votre présence ici, est par habitude ou parce que vous avez un amour réel pour le Seigneur? Votre service pour le Seigneur est-il devenu une routine? Ou est-ce que vous faites par amour et avec zèle pour le Seigneur? Quand vous chantez des cantiques, est-ce que c'est de façon machinale et mécanique que vous les chantez? Ou bien vous chantez avec amour et zèle pour le Seigneur. Vous savez, en Psaume 100, nous lisons « Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse dans sa présence. » Et ce matin, si vous n'avez pas de joie dans votre vie chrétienne, est-ce possible? Est-ce possible? C'est parce que vous avez abandonné votre premier amour. Non seulement le Seigneur veut que vous sachiez que vous pouvez abandonner votre premier amour, mais si tel est votre cas, il y a une bonne nouvelle. Vous pouvez le retrouver. Regardez votre texte, si vous voulez, au verset 5, où le Seigneur va dire: « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi, pratique tes premières œuvres. » Souviens-toi, repens-toi, pratique tes premières œuvres. Et là, nous avons ici le Seigneur qui est le médecin par excellence, qui va maintenant apporter le remède. Deux pilules et de l'activité. Vous savez, on est toujours sollicité d'être plus actif. La participation. Alors le Seigneur va dire à cette église: j'ai deux pilules pour vous et de l'activité. Dans un premier temps, pilule pour la conscience. Souviens-toi d'où tu es tombé. Et combien il est important pour cette église de se rappeler de son état antérieur pour être capable de bien juger sa condition présente. Se rappeler sans doute d'un état antérieur où elle était caractérisée par un amour passionné pour le Seigneur. Pour être capable maintenant de mieux juger la profondeur dans laquelle elle était sombrée en le remplaçant par une orthodoxie froide. Et vous savez, chers amis, c'est toujours là qu'il faut commencer, au niveau de la conscience. si on veut effectuer un changement radical dans notre vie. Vous vous rappelez du fils perdu, Luc chapitre 15. Et en passant, c'est un autre aussi qui avait répudié l'amour de son père. Vous vous rappelez comment il était parti pour un pays lointain? La parole nous dit qu'il a dissipé son bien en vivant dans la débauche. Mais la main du Seigneur était sur lui. Et ce qui avait commencé comme une aventure extraordinaire était terminé dans son pire cauchemar. Et que dit le texte? Étant rentré en lui-même, il dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance et ici je meurs de faim. Et c'était le souvenir du passé qui l'a ramené dans son bon sens spirituel. Quand il a comparé son état présent, lamentable, pitoyable parmi les cochons. Et là, il s'est rappelé de la maison de son père. Il a posé la question, qu'est-ce que je fais ici? Au niveau de la conscience. Et ça, c'est une question qui est difficile, mais salutaire qu'il faut toujours poser si on veut effectuer un changement dans n'importe quelle situation. Et si ce matin, vous vous sentez que vous êtes loin du Seigneur, c'est une question aussi difficile, mais salutaire, que vous devez vous poser si vous voulez effectuer un changement dans la situation. Souviens-toi. Il y a aussi, pour cette église, une deuxième pilule. Ça, c'est pour la conscience. L'autre, c'est pour la volonté. Le texte dit, repens-toi. Et comme vous le savez, le terme pour la repentance, c'est un terme militaire. C'est faire un demi-tour, 180. Au lieu d'aller dans une telle direction, on rebrousse le chemin, on va dans la direction opposée. Et pourquoi le Seigneur va dire à cette église de se repentir? Parce que avant qu'on puisse y avoir un changement, il faut prendre une décision de changer. Une fois qu'on a pris la décision, si elle est authentique, mais les actions vont suivre. Et vous savez, toujours une vraie repentance est toujours accompagnée par une tristesse. Pas une tristesse parce qu'on s'est fait prendre. Pas une tristesse parce que maintenant on est dans le pétrin et on a des remords. Mais une tristesse parce qu'on se rend compte qu'on a offensé Dieu. Et aussi en la cause du tort, soit à soi-même ou à autrui. Vous savez que le fils perdu dans Luc 15, je reviens à cet exemple, il prend la décision. Sa repentance est authentique. Il a dit, je me lèverai et j'irai vers mon père. Voilà sa décision. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Ça, c'est sa confession. Et c'est ce que le Seigneur attendait justement de l'église d'Éphèse. Une repentance basée sur une décision de changer la situation, une confession justement de leur manque d'amour pour sa personne. Et c'est ce que aussi le Seigneur attend de nous. Si jamais nous nous trouvons dans une telle situation, si le Saint-Esprit nous convainc que notre amour pour le Seigneur est refroidi ou abandonné. Mais dans l'étape de la repentance, le Seigneur veut aussi que nous soyons capables de dire oui. Je prends la décision de changer cela et je confesse, oui Seigneur, je t'ai délaissé. Avant de quitter ce point, j'aimerais juste vous dire deux choses à propos de la repentance. Ce n'est pas compliqué, la repentance. Une simple décision, on pourrait changer n'importe quelle situation, aussi difficile soit-elle. Et le temps du verbe dans le texte ici suggère une action immédiate possible. Et deuxièmement, le Seigneur donne toujours du temps. Il y a des avertissements dans la parole de Dieu qu'on voit quand on parle de la repentance. Le Seigneur ne vient pas tout de suite frapper avec un bâton. Il donne du temps, justement, pour la repentance. On pense pendant le temps de Noé, 100 ans, pendant que Noé construisait l'arche, pour que ces gens-là puissent se repentir. Quand Jonas a commencé sa prédication, il rentre dans la ville de Ninive, encore 40 jours, et Ninive est détruite. Du temps pour se repentir. Nous sommes maintenant dans l'an de grâce 2007. Et depuis que les hommes ont crucifié le Seigneur de gloire, le Seigneur donne aussi encore du temps. Le texte nous dit que Dieu use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Et le jugement de Dieu tombe seulement quand les hommes refusent de se repentir. Et ce matin, si vous entendez sa voix, la parole c'est « n'endurcissez pas vos cœurs ». Deux pilules, conscience, niveau de la volonté. Troisième chose, c'est l'activité. Pratique tes premières œuvres. Et ça, c'est la façon de vérifier si la repentance est authentique. Dans Matthieu chapitre 7, verset 20, quand Jean-Baptiste va prêcher le baptême de repentance, il va dire à la foule, « Produisez donc des fruits dignes de la repentance. » En autre mot, vous dites que vous êtes repenti, mais montrez-le. Et c'est ce que le Seigneur attend justement d'Éphèse, « Pratique tes premières œuvres. » Qu'est-ce que cela pourrait impliquer? Dans un premier temps, si le Seigneur le dit, vous abandonnez votre amour, la conclusion logique, c'est de pratiquer et de faire ce que vous étiez en train de faire au tout début, que vous faisiez avec amour. Vous avez une orthodoxie froide, oui, vous avez des bonnes choses, mais il n'y a pas d'amour. Retournez donc au début. Faites ce que vous étiez en train de faire et avec amour aussi. Et j'aimerais vous suggérer ici que cette église ici, le Seigneur parle d'une église qui exerçait de la bonne discipline, qui exerçait aussi une bonne doctrine, qui est une église qui était déterminée, il y avait de la détermination. Mais en ce qui concerne les disciples, le discipleship, faire des disciples de toutes les nations. Il n'y a aucune mention de cela. Vous savez que quand Paul avait fondé cette église, au tout début, il y avait une ferveur évangélique. Ceux qui pratiquaient les armes avaient apporté leurs livres, ils avaient brûlé. Ça coûtait une fortune. Mais ils avaient troqué ça pour l'évangile. Et Paul est resté dans cette église pendant 3 ans. La parole de Dieu nous dit que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Cette église était justement une église missionnaire, une église qui évangélisait. Et qu'est-ce que ça prend pour évangéliser? Ça prend une passion pour les âmes. Et d'où vient cette passion pour les âmes? Un amour pour le Seigneur. Si vous êtes en amour avec le Seigneur, si vous êtes attaché à sa personne, ça va déborder dans une compassion, une passion pour les âmes. J'aimerais vous suggérer ici que Éphèse avait perdu justement cette passion pour les âmes parce qu'elle avait perdu aussi leur amour pour le Seigneur. Et le Seigneur voulait ramener maintenant pour leur dire, pratiquez les premières œuvres. Et vous savez, il n'y a rien comme évangéliser, partager la bonne nouvelle, parler de l'amour du Seigneur Jésus-Christ à quelqu'un pour alimenter votre propre amour pour le Seigneur. Finalement, le Seigneur va leur dire, et il y a aussi une mise en garde, comme tout bon médecin, parce qu'on va chez le médecin et on peut prescrire la médication, mais quelques-uns qui ont la tête dure, ils n'aiment pas ça prendre des pilules. Le Seigneur a dit, « Ok, sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. » Il dit, « Ah, waouh, il est sévère, le Seigneur. » Mais non, il n'est pas sévère, c'est parce que la maladie est grave. La maladie est tellement grave qu'il va avoir des conséquences aussi très graves. J'aimerais vous dire que quand il s'agit de l'amour pour le Seigneur, il n'y a pas de mi-chemin entre un cœur entièrement dévoué au Seigneur et l'échec. Christ doit être le Seigneur de tout ou pas du tout. Il n'y a pas de mi-chemin. Et le Seigneur est en train de dire à Éphèse, « Si vous ne revenez pas à votre premier amour, c'est fini. Ça va être un échec. Et moi, je viendrai. Et je vais ôter votre chandelier de la place. » L'Église d'Éphèse doit luire dans l'amour ou ne pas luire du tout. Et si on fait l'application ici pour nous, en 2007, l'Église de Cap-de-Madeleine doit luire aussi dans l'amour ou pas du tout. Les chrétiens ne vont pas, bien sûr, perdre leur salut, mais l'Église ici va perdre son témoignage. Et finalement, j'aimerais que vous sachiez que votre amour pour le Seigneur peut être aussi ravivé. Il peut être perdu, il peut être retrouvé, mais aussi, plus important, il est aussi possible de le raviver. Et quelqu'un, vous savez que ceux qui font la relation d'aide, ça prend l'entretien régulier, hein, dans une relation, surtout dans une couple. Si on veut que la flamme reste allumée, ça prend un entretien régulier. Quelqu'un a bien dit, la vitalité d'une relation passe tout d'abord par un renouveau continuel. Alors, je vous donne des devoirs, je me parle moi-même, cher monsieur. Vous avez des épouses, vous voulez que la relation reste vivante, mais il faut un entretien continuel. Si vous ne savez pas c'est quoi l'entretien, demandez à vos épouses. Elles vont vous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit une relation qui est justement vivante. Mais ici pour Éphèse, le Seigneur va donner un réconfort. Un réconfort pour encourager cette Église que ce n'est pas terminé. Et dans ce premier temps, il va commencer par leur montrer qu'il y avait, malgré tout ce qui se passait, il y avait un point en commun. Et il va leur dire, vous haïssez les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Et sans entrer dans trop de détails, les Nicolaïtes, c'était des personnes qui se disaient chrétiens, mais qui vivaient aussi dans la débauche, dans la licence. Le Seigneur leur disait, écoute, vous n'aimez pas cela, moi non plus je n'aime pas cela. Et vous savez que quand on veut rapprocher un couple, il y a eu des problèmes dans un couple, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche toujours un point en commun pour redémarrer le couple. Et le Seigneur est en train de dire à Éphèse, oui, ça se tourne pas rond, vous m'avez répudié, mais nous avons au moins un point en commun. On peut recommencer à zéro. On peut démarrer parce que nous avons justement un point commun. Vous pouvez être un partenaire avec moi. Ensuite, il va leur parler de la persévérance des saints. Celui qui vaincra. Il va leur rappeler qu'un chrétien authentique va persévérer, il va vaincre Il va un jour être restauré, glorifié. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Et un jour, vous et moi qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous serons glorifiés, nous serons dans sa présence et nous allons aimer le Seigneur avec un amour parfait. Avez-vous hâte à ce jour-là? Le Seigneur est en train de leur dire, focalisez là-dessus. Et même si votre amour maintenant est non existant, rappelez-vous un jour, vous allez m'aimer avec un amour parfait parce que vous allez vaincre. Et ça devrait nous aussi nous exciter à tendre vers cela parce que c'est ce qui nous est réservé. Deuxièmement, il parle aussi d'une belle promesse. Je donnerai à manger de l'arbre de vie. Vous savez qu'Adam et Ève ont été défendus de manger de l'arbre de vie parce qu'ils auraient vécu éternellement dans le péché. Mais dans ce contexte-ci, le Seigneur est en train de dire, vous allez avoir un amour parfait, mais un amour perpétuel. Parce que vous allez vivre éternellement. Et cet amour parfait que vous allez avoir un jour ne va pas durer juste quelques instants, mais ça va durer aussi pour toute l'éternité. Réconfortez-vous par cela. Et troisièmement, il le dit aussi, c'est dans le paradis de Dieu. Et si vous lisez à propos du paradis de Dieu, vous savez, dans Psaume, il nous parle d'un endroit où est-ce qu'il y a des délices éternels. J'aimerais vous dire que justement, que l'amour pour le Seigneur va être parfait, perpétuel, mais aussi plaisant. Aimer le Seigneur ne sera pas un corvée. Il n'y aura pas question de l'abandonner, l'amour pour le Seigneur. Dans cet état glorifié, on va avoir un amour qui va déborder pour le Seigneur, un amour parfait, perpétuel, et aussi ça va être le fun, ça va être plaisant. C'est dans le paradis de Dieu. Le psaume 16 nous dit, « Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. » Éphèse, prenez ça, mettez ça en pratique. Et quelle motivation pour cette église, justement, qui avait perdu le premier amour, qui avait maintenant la possibilité de le retrouver et de se mettre à l'œuvre pour le raviver. Et ça devrait aussi nous encourager ce matin. Je termine avec ceci. Si vous avez jamais connu l'amour du Seigneur, la parole de Dieu nous dit, si vous avez goûté que l'Éternel est bon, vous savez, venir au pied de la croix en se repentant, le Seigneur pardonne, le Seigneur purifie, le Seigneur donne son amour. Et si ce matin votre amour est perdu, refroidi, je ne sais pas, si le réservoir est vide, le Seigneur vous demanderait aussi de faire comme Éphèse, vous repentir, afin qu'il puisse commencer à vous remplir. Et si vous êtes un chrétien qui est dans la joie du Seigneur et vous dit, mon réservoir est plein, mais vous savez, ce n'est pas suffisant. Il faut que ça déborde afin que cette église soit reconnue dans la Mauricie comme une église où les gens aiment le Seigneur. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole qui nous encourage. Merci pour ton amour qui est infini. Inlassable, qui est fort, qui nous soutient. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de t'aimer en retour, comme nous devrions le faire. Et merci, Seigneur, pour ce jour où est-ce qu'on va paraître devant toi, purifié, glorifié à ton image. Nos cœurs vont être remplis d'amour pour toi. Seigneur, donne-nous de brûler en attendant ce jour béni et de faire tout ce que nous pouvons faire ici-bas pour te faire connaître. Nous te demandons toutes ces choses en ton nom et pour ta gloire. Amen.